Vous passez une très belle journée sur Art District. Tout de suite, retrouvez Sonia Juquin dans sa chronique mise en scène qui lève le rideau sur une actualité théâtrale.
Vous êtes arrivé à pied par la route. Aucun car ne vient plus jusqu'à la dune. Les taxis demandent qu'on leur paye l'aller-retour d'avance depuis la gare. Vous avez fait le trajet de 5 km seul avec votre bagage à main dans la nuit claire. La route est droite, bordée de taillis à l'abandon. Vos jambes étaient fatiguées. Vous vous êtes posé et quelqu'un est monté me prévenir que vous étiez au salon. J'ai laissé mon stylo, je suis descendu et je les ai vus dépasser de l'accoudoir du canapé. Longue, fine, musclée par la marche. Vos pieds aussi, avec leurs orteils nacrés aux ongles courts, 10 petites perles rondes tendues en éventail vers le plafond pour goûter le repos. Je me suis approché, j'ai vu votre visage et j'ai su au premier instant. J'ai dit...
Alors comme ça, c'est vous? C'est Bérénice?
Fabrice Pateau, bonjour. Pouvez-vous vous présenter et nous dire quel est votre parcours?
J'ai un parcours de philosophe, en fait. Donc, je travaille au CNRS, je fais des recherches en philosophie du langage. Et puis, j'ai par ailleurs une activité d'écriture, de fiction. Donc, j'ai écrit des romans et des nouvelles qui ont été publiées... assez curieusement au départ en traduction au Portugal et qui ensuite ont été publiés en France. Voilà. Et parmi ces romans, il y a donc En haut des marches, hein, qui avait été publié par Le Seuil en 2007.
D'accord. Ulysse Robin, vous êtes metteur en scène. Pouvez-vous également vous présenter et nous dire un petit peu votre parcours artistique?
Oui, bien sûr. Bah, du coup... À Paris, des écoles de théâtre, deux, l'école du jeu et le studio d'Anière, avant d'intégrer ce qu'on appelle une école supérieure, qui est une école d'État publique, qui s'appelle l'ESCA, l'école supérieure du comédien par l'alternance. Et j'ai intégré cette école en 2018, et je viens d'en sortir à l'instant. Voilà, donc j'étais apprenti, ce qu'on appelle apprenti comédien pendant 3 ans, et mon contrat d'apprentissage court jusqu'au 31 août. Et voilà, donc là je viens de terminer cette formation-là.
D'accord. Nous sommes également avec Diego Collin et Alice Raimi. Pardon. Pouvez-vous vous présenter également?
Bonjour. Alors moi, à la différence d'Ulysse, j'ai fait que une école, le studio d'Anière. Donc j'ai construit, j'ai rencontré ma famille artistique. J'ai enchaîné avec beaucoup de projets théâtraux. Et voilà. Voilà.
Alors, c'est drôle, mais il l'a pas du tout mentionné, mais alors Alice Raimi, on s'est rencontrés au lycée. On a commencé un peu, en fait, le théâtre ensemble. On s'est rencontrés à ce moment-là, on n'était pas vraiment amis, mais on s'est rencontrés sur scène. Et on a commencé à jouer, on a joué Don Juan, on a joué Chapeau de paille d'Italie, dans ce lycée qui nous a permis d'avoir une option théâtre, qui était le lycée Molière dans le 16e. Et ensuite, moi en tout cas, c'est là où j'ai su que je voulais continuer à faire ça. Et ensuite, j'ai fait plusieurs écoles privées et je suis entrée en 2017 au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique et je suis sortie en octobre 2020.
Et moi, je vous ai vu en fait la première fois
sur la scène en fait au lycée Molière
dans Don Juan,
absolument.
C'était Don Juan.
Oui, oui.
C'était il y a 7 ans.
C'était il y a 7 ans.
En 2014.
Ouais, absolument.
Donc là déjà en fait il y a des connexions. Hein. Le projet est né évidemment de connexions.
Ça fait un moment qu'on oui.
Voilà. D'accord. Alors justement, pour en revenir au tout début, Fabrice Pateau, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire En haut des marches, qui a été publié en 2007 ?
Ce qui m'a donné envie de l'écrire, en fait, c'était de manipuler le lecteur, en fait, d'une certaine manière, parce que si, faut pas lire la quatrième de couverture du livre, qui dévoile tout, enfin, on va aussi dévoiler un certain nombre de choses pendant cet entretien, mais en fait, quand on lit le livre, disons, je dirais jusqu'à la moitié, à peu près, on a l'impression qu'on est en train de lire les souvenirs de vacances un peu nostalgiques d'un jeune homme qui tombe tranquillement amoureux d'une amie de sa sœur qui est un peu plus âgée. Donc Antoine, pour ne pas le nommer, à peu près ils ont 15 ans. Bérénice, donc l'amie de la sœur, a 5 ans de plus, hein, quelque chose comme ça. Et puis, il y a une attirance physique, il y a un jeu entre les deux. Donc, on croit ça pendant un certain moment. Et puis, tout d'un coup, il y a une espèce de rupture à un moment donné dans l'histoire. Et en fait, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Il n'est pas du tout attiré physiquement par Bérénice. Il est mal dans son corps de jeune garçon. Et il se rend compte que le corps de Bérénice, c'est le genre de corps qu'il voudrait avoir, en fait. Et qu'il voudrait être une femme. Donc c'est ça qui est dévoilé à la moitié du roman. Et donc c'est un peu ça au début qui m'a... C'était cette idée-là, en fait, qui m'a attiré au début. C'était de mettre le lecteur sur une mauvaise piste et à un moment, de tirer le tapis, hop, et puis que le lecteur se retrouve face à autre chose, en fait, face à une autre histoire. Étant donné que le fait que ça soit... qu'on le croit... sur la longueur pendant un certain moment en lisant le livre, joue un rôle quand même, puisque c'est finalement, en fin de compte, l'histoire de Dorine, puisque c'est Dorine qui parle, c'est-à-dire Antoine transformé en femme, c'est finalement une femme adulte qui a des souvenirs de petit garçon. C'est ça qui lui arrive, en fait.
Alors justement, sur le thème de la question du genre, il y a eu, ça a été le thème en 2018 du Festival d'Avignon. Mmh. Et c'est un thème qui attise plutôt les débats.
Oui, bien sûr. Oui.
Surtout actuellement. Mmh. Concevez-vous ce sujet comme une clé de compréhension du monde ou plutôt comme une perspective d'évolution ?
Alors, je connais mal les détails de la théorie du genre, donc je n'ai pas tellement d'avis sur la question. Quand j'écris de la fiction, je ne m'intéresse pas aux théories, donc je n'ai pas du tout voulu illustrer une théorie, ni illustrer une problématique. Après, c'est évident que, quel que soit le sujet dont on parle, que ce soit le changement de sexe, ou peut-être qu'il faut dire le changement de genre, je ne sais pas, dans ce cas-là, ou, évidemment, il y a des résonances dans la société, donc forcément, ça va. Les gens auront des avis contraires, auront des objections, au fait que bon, il ne faut pas traiter le sujet comme ça. Je n'ai pas essayé de traiter un sujet en me disant voilà, je m'intéresse à la théorie du genre ou je m'intéresse à la transsexualité et je voudrais écrire une histoire qui illustre ça. Pas du tout. Après, si. Moi, ce qui m'intéresse plus, je dirais, c'est dans la réaction des gens qui lisent le livre ou qui viendront voir la scénographie. D'Ulysse et la pièce ou la scénographie jouée par Diego et par Alice, c'est plutôt, je dirais, des choses plus personnelles, parce que c'est comment les gens réagissent personnellement à ce genre de questions, en fait. Après, il y a tout un tas, oui, tout un débat théorique autour des questions du genre, c'est sûr. On est en plein dans ce genre de questionnement, mais je pense pas que ça apporte vraiment un élément au débat en tant que tel. L'idée, c'était plutôt de dresser le portrait psychologique d'un personnage, en fait, qui a changé de sexe. Donc, c'est pas quelqu'un qui est, comme on dirait aujourd'hui, non-binaire. Pas du tout. Il est complètement binaire, Antoine. C'est un garçon, il est mal dans son corps. Il est malmené par un garçon de son âge au lycée qui l'utilise un peu comme ça, comme objet sexuel, etc. Et puis tout d'un coup, il rencontre cette femme un peu plus âgée. Il est attiré par ce corps féminin, mais pas du tout, comme on dit, pour le posséder. Il ne va pas faire l'amour avec Bérénice, c'est absolument pas ça l'idée. Et donc, il y a tout un jeu entre les deux. Il y a Bérénice, évidemment, comprend pas ce qui se passe, elle s'attend à quelque chose qui viendra jamais, parce que de toute façon, c'est pas ça qu'il cherche. Donc Bérénice joue un rôle de révélateur. Donc en fait, je dirais, si on veut remettre le débat en termes de genre et de binaire, c'est extrêmement binaire. C'est un homme qui veut devenir une femme, et qui projette sur les femmes une certaine idée qu'on peut juger... rétrograde ou une image d'Épinal de la femme, oui, évidemment. Il voudrait avoir un corps de femme, donc un corps de femme, pour lui, ben, ça correspond à certaines images toutes faites, forcément.
Et alors, comment fait-on pour retravailler un roman afin d'en faire une représentation théâtrale? Est-ce qu'on peut parler de recréation, Ulysse?
C'est Ulysse.
Par recréation, adaptation. C'est une adaptation, en fait, d'un roman en pièce, en théâtre. Donc là, c'est particulier pour nous parce qu'on travaille avec l'auteur directement et les deux acteurs. Donc c'est, comme on disait tout à l'heure, une pièce qui a tout au long des répétitions évolué et qu'on modifie toujours, peut-être même encore. Là, les dernières répétitions qu'on a faites, le texte continue d'évoluer. Donc là, la difficulté et en même temps, plutôt pas tellement une difficulté, c'était il y a un roman qui est évidemment très dense, beaucoup plus fourni que la restitution théâtrale, ce qui va être ensuite sur le plateau. Il y a plus de personnages, là on s'est concentré sur un personnage, et puis après il y aura des voix qui vont faire exister les autres personnages, mais sur le plateau il n'y aura que Antoine et Dorine. Et du coup, on a quand même décidé de s'axer précisément sur un fil, une trame du roman. Donc voilà, on a déjà, comme un entonnoir, on s'est déjà un petit peu réaxé.
Oui, parce qu'en fait, le roman, c'est un monologue. Le roman, c'est Dorine, qui est une femme d'une quarantaine d'années, qui se remémore cette période de son enfance, quand elle était Antoine, et qu'elle a eu elle a pris cette décision. Tout le travail, en fait, d'Ulysse et de Diego et d'Alice, et du metteur en scène et des acteurs, c'était en fait de couper le personnage en deux, en fait, parce qu'il a deux voix. Donc il y a Antoine, qui est jeune, il y a Dorine, X années plus tard, et donc on a dû passer du monologue du livre à une espèce de dialogue interne, en fait, hein, du jeune Antoine et de la Dorine, femme adulte. Donc c'était ça la difficulté du travail, je pense.
Voilà, et c'est ça qui nous a intéressé.
C'est donner une voix au même personnage, mais deux voix différentes.
Et on s'est rendu compte, dans les premières versions, qu'on avait donné la parole à Dorine lorsque c'était plutôt... On s'est dit, bah non, plus tard, c'est plutôt Antoine qui devrait prendre en charge cette parole-là. Et c'est cet équilibre-là qu'on a trouvé tout au long des répétitions. Et là, on arrive à un objet fini, cohérent, avec une évolution personnelle pour Antoine et Dorine qui se répondent. Et et tout se passe dans un même endroit, qui est la maison familiale où il y a eu le drame. Et donc ça se passe au même endroit, mais à deux temporalités différentes qui vont, une être prise en charge par Alice, qui prend la parole d'Antoine, et une est la parole de Dorine qui est prise en charge par Diego.
Donc le 28 juillet prochain à 20h30, vous présenterez ce travail collectif d'écriture et puis aussi de réadaptation. Vous allez le présenter au Festival du Château de Guérinet. Qu'est-ce que ce festival, depuis quand existe-t-il et comment avez-vous eu l'opportunité justement de présenter le travail que vous êtes en train de faire?
Alors c'est drôle parce que du coup ce festival a été... Donc c'est la deuxième édition du festival qui n'existe que depuis l'été dernier. Et il est dirigé, organisé par un ami à nous. On se connaît de la section lycée, déjà, au lycée Molière. Et ensuite, il a intégré l'école du studio d'Anières dans laquelle on est passés tous les trois. Donc on était en cours avec Ulysse ensemble. Et on se retrouve donc plusieurs années plus tard à l'occasion de ce festival du coup qu'il organise. Et l'été dernier, pour la première édition, c'est un festival qui est très tourné vers la musique surtout. Il y a beaucoup, beaucoup de musique. La musique a une part très importante. Mais l'année dernière, Valentin Besson, du coup, voulait
qu'il y ait un peu, que le théâtre ait sa place aussi. Et il m'a contacté du coup pour faire une lecture de plusieurs extraits de pièces de Molière. Et pour m'accompagner, du coup, moi j'ai demandé à Alice de se joindre à moi. Et du coup, il se trouve qu'en parallèle de ça, le confinement est passé par là, qu'avec Fabrice, on commençait à évoquer ce projet d'En haut des marches. Et du coup, j'ai demandé à Valentin si éventuellement il pouvait nous trouver une place pour éventuellement présenter la première étape de travail de ce projet En haut des marches. Et comme l'expérience avait été plutôt très très bonne l'année dernière et qu'on se connaît bien et qu'il connaît très bien Ulysse, c'est un bon ami. Du coup, c'est avec beaucoup de confiance qu'il va nous laisser nous produire du coup là dans quelques jours, une dizaine de jours dans son château.
Donc on a fait une résidence.
Et on a déjà fait une résidence au printemps. Donc on est resté, c'est plus trop, une petite semaine je crois.
Ouais.
On est resté donc histoire de voir un peu le lieu, de pouvoir travailler,
oui, de répéter sur le lieu,
voilà, là, c'est ça. Et du coup, on y retourne là. On a quelques jours de répétition avant de nous produire le 28.
Et alors justement, quelques jours de la présentation publique, dans quel état d'esprit êtes-vous chacun ?
Plutôt bon, plutôt très bien. C'est des répétitions très agréables de par le fait déjà qu'on se connaît tous déjà très très bien. Alice, Ulysse, on est très proches. Fabrice, c'est un proche aussi depuis déjà plusieurs années. Donc déjà, ne serait-ce qu'au niveau de l'équipe artistique, il y a une sorte d'harmonie qui fait que aller travailler avec des gens aussi proches, c'est déjà un plaisir, et surtout pour un projet qui est quand même un beau projet. Donc rien qu'à ce niveau-là, on part déjà dans de très bonnes conditions. Après, au niveau du travail, on a travaillé sereinement, on n'a pas brûlé les étapes, on a pris le temps d'être fier de ce qu'on va présenter le 28. Du coup, moi, à titre personnel, je suis plutôt très très content. Il y a un enjeu quand même, c'est en tant que comédien, après avec Alice, on s'est rendu compte que c'est la langue, donc c'est un peu ça qui va nous... C'est une langue particulière, très poétique, très dur à articuler, mais c'est un beau challenge, mais sinon on y va dans de bonnes...
Et puis enfin, je pense qu'on a tous hâte aussi de le donner et de savoir comment est-ce qu'il va être compris, entendu, parce que c'est pas du tout dans la facilité. Le roman ne tombe pas dans la facilité, alors qu'on pourrait croire justement avec ces questions de genre, on en a lu plein, hein, je veux dire, de où ça glisse justement et on se dit bon bah on sait déjà où est-ce que ça va aller, et là en fait on n'est jamais en sécurité, on sait jamais où est-ce que l'auteur nous amène. Après c'est tout ce travail là aussi, comment est-ce que nous en tant qu'acteurs, jamais révéler, en fait, on ne donne pas les clés, il y a un secret, un peu, qui est entre les spectateurs, ou ces gens-là, le public qui va être là, quelque chose qui n'est pas dit, mais qui est là et qui va flotter, en fait, enfin, moi, j'espère ça, quelque chose qui va être là, en fait, j'ai trop hâte de voir comment est-ce que... Enfin, même le regard, parce qu'en fait, on va avoir des adresses directes, en fait, au public. Voilà, on a travaillé, j'ai pas envie de révéler toutes ces choses, mais c'est vrai qu'on a travaillé avec le public, en fait. On va les regarder dans les yeux, il va y avoir des paroles vraiment dites au public, et en fait, je pense que moi, j'ai vraiment hâte de les voir là, assis en face de moi, et de leur poser des questions à travers l'écriture de Fabrice, et de porter les mots de Fabrice. Oui, j'ai vraiment hâte de voir ça.
Non, je pense que c'est... Oui, ce que tu dis est juste. Je pense qu'on prend on exige quelque chose du public,
oui,
en fait, dans cette représentation. Donc, c'est pas du tout quelque chose de passif. Pas parce que le texte est difficile ou l'histoire compliquée, mais en fait, il met en scène, je pense, des questionnements que n'importe qui peut avoir. Et en fait, là, un des intérêts, je trouve, du travail qu'on a fait ensemble, c'est évidemment, moi quand je l'écris, je l'écris dans mon coin, je me relis à haute voix, toujours, donc, mais évidemment ça c'est la voix intérieure de l'auteur, c'est assez monocorde, tout est dit sur le même ton, donc effectivement quand le texte retravaillé est dit par Diego, c'est vraiment, moi je découvre des choses, c'est-à-dire il y a des phrases qui passent pas. Elles passent quand on les dit tout seul, assis dans son canapé, et puis quand elles sont dites, on dit c'est affreux, c'est absolument impossible, c'est trop long, il faut les couper, ou il y a un mot qui est compliqué à prononcer, qui ne rend pas. Donc en fait, la mise en voix l'incarnation du texte par la voix de l'acteur, je pense que c'est quelque chose que je ne connaissais pas, qui est très particulier. Je trouvais que c'était un travail tout à fait intéressant, parce que tout d'un coup, un acteur, je veux dire, c'est en chair et en os, c'est sur scène, ça bouge, c'est un être humain, ça a des mimiques, c'est pas du papier, quoi. C'est tout à fait autre chose. Et donc le ton de la voix, la sonorité, la texture, tout ça, ça change, ça donne un contenu différent, je pense, du contenu du livre. Quelque chose que j'ai retrouvé remarquable justement dans le travail, notamment avec Ulysse, c'est que entre le début, le moment où on a commencé et le moment où on est arrivé maintenant, en fait, par exemple, la voix d'Alice a complètement changé. Tu dis pas du tout le texte de la même manière. Donc il y a des intonations, puisque Alice joue le rôle d'Antoine, très jeune. Donc il y a des effets de tremblement dans la voix, il y a des choses qu'il n'y avait pas au départ. Et ça, c'est des choses qui ne peuvent pas apparaître à la lecture d'un roman qu'on lit pour soi, parce qu'on lit tout avec la même voix. Hein. C'est pas écrit comme une pièce de théâtre non plus. Donc je trouvais ce travail intéressant. Donc j'espère que le public va réagir à ça aussi.
Et alors, si chacun d'entre vous, vous deviez partir sur une île déserte avec un seul livre, lequel choisiriez-vous et pourquoi?
Je pense pas d'autres réponses possibles. Je ne sais pas qui se lance en premier. Avec un seul livre. Je pense que ce serait du théâtre. Et ce serait sans doute une pièce de Racine ou de Corneille. Comme ça, je dirais le Cid. Ouais, je dirais le Cid des Alexandrins. Des personnages, des rôles différents. Si je suis tout seul, c'est bien d'avoir différentes
ça
voix
occupé,
que je pourrais prendre en charge. C'est magnifiquement bien écrit. Le Cid, je dirais.
Je réfléchis encore. Hein.
Ça dépend du temps qu'on a sur l'île déserte. si on est coincé pendant très longtemps. Non, moi je prendrais Proust, je pense. Parce que c'est long, donc je suis prudent. Je me dis si je suis vraiment coincé sur le désert. Hein. Non, pas, je prendrais Proust parce que j'ai un faible.
Je sais pas. Il y en a
tu l'as dit, en haut des marches.
Oui, en haut des marches, bien évidemment. Mais... Moi, il y a peut-être un livre que je prendrais, mais c'est plus pour ce qu'il représente pour moi. Ça m'avait marqué parce que quand j'étais en primaire, donc j'ai fait une primaire dans une école espagnole. Et l'un des tout premiers livres qu'on a lu, du coup, en version espagnole, c'est le Don Quichotte.
Ah oui.
Ouais, mais je l'ai lu en espagnol, je le connais qu'en espagnol, et je sais qu'on le lisait tous les ans. Donc on se passait le livre et chacun on lisait un extrait, on se passait à gauche. Et je sais, c'est un de mes premiers contacts, une de mes premières expériences avec la lecture. Peut-être le Don Quichotte en version espagnole, du coup. Ouais, pour ce qu'il a représenté pour moi. Ouais, ouais, j'aime bien. Nostalgique.
Pas de pression, Alice.
Je me
Alors, c'est pas grave. Alice, du coup, j'ai une autre question pour vous. Si vous étiez ministre de la Culture, quelle serait votre première mesure?
Allez hop.
En fait, j'ai un livre.
J'ai trouvé un livre, j'en ai même deux, si vous voulez.
Si j'étais ministre de la Culture...
Bon, de poids de la question, hein, quand même. Là. Ouais. Oh, là.
Il y a un contexte quand même très particulier en ce moment. Hein.
Avec les ouvertures des
anciennes. Ce qui se passe, et tout ce qui s'est... Je te pique un peu la parole, mais on a quand même traversé des mois très très difficiles là, pour la culture, avec tout le mouvement qui s'est passé là à Paris et dans toute la France, surtout dans toute la France, dans tous les théâtres avec les occupations. On sait que c'est toujours pas réglé, qu'on a eu une prolongation de l'année blanche jusqu'au 31 décembre. Il y a des aides, mais tout reste difficile. Les théâtres privés n'ont toujours pas réouvert et on est évidemment très inquiet de la manière dont on va se passer la rentrée en septembre. Pour l'instant, il y a Avignon qui se termine et on a l'impression que tout va bien, mais on s'inquiète beaucoup. Donc, ministre de la Culture, aujourd'hui, déjà, j'aimerais pas être à sa place parce que c'est évidemment très compliqué, mais accompagner le mieux possible les jeunes créations, les compagnies émergentes qui ont évidemment été très touchées par cette crise sanitaire et du coup artistique culturelle, accompagner les jeunes compagnies et évidemment voilà, être très à l'écoute et des théâtres et des lieux et continuer d'échanger. Voilà, pas forcément accompagner les plus gros spectacles et qui sont déjà bien subventionnés, essayer d'être très attentif à tout le monde. Voilà, et pas juste ceux qui ont la chance déjà de se produire et qui vont continuer en fait d'exister à la rentrée. Parce que voilà, je pense à toutes ces compagnies et tous ces artistes, quel qu'il soit, un technicien, un metteur en scène, acteur, et de tous les corps de métier artistiques, voilà, être très à l'écoute et les aider évidemment financièrement dans des lieux, voilà. Et évidemment, inciter un maximum de personnes, le public, à aller au théâtre, bien sûr. Voilà, toujours la même chose, parce que là, on le répète, c'est le théâtre, c'est évidemment exigeant. Et pendant toute cette crise sanitaire, notamment les lycéens, chaque année est importante. Quand on est au lycée et qu'on va au théâtre, c'est des acteurs, c'est des spectateurs de demain. Et moi, j'ai une inquiétude énorme de me dire que pendant 2 ans, on a peut-être perdu un public potentiel qui se serait révélé découvert et qui aurait apprécié énormément d'aller au théâtre pendant ces 2 années-là. Et c'est des années peut-être perdues, j'espère qu'ils regagneront plus tard. Voilà, donc peut-être s'axer aussi sur ce public-là qui a été aussi oublié.
Moi, je pense que c'est pareil pour l'édition. Hein. C'est les petites maisons qui ont besoin d'aide. Hein. Oui. Puis c'est elles qui font un travail. Hein. Oui. C'est elles qui font le travail. C'est elles qui découvrent les auteurs. C'est elles qui... Donc, je pense que les aides régionales, les aides du CNL, tout ça, c'est extrêmement important. C'est pas des maisons qui gagnent de l'argent. C'est des maisons qui perdent de l'argent ou qui arrivent à équilibrer. Mais s'il n'y a pas effectivement une aide... de la culture ou du Centre national des lettres, c'est très dur, ça n'existe plus. Mais en France, de ce côté-là, enfin du côté des petits éditeurs, il y a énormément de choses. Donc, c'est assez étonnant le nombre, vu la difficulté qu'il y a eu, enfin avec la pandémie, etc. Le nombre de petites maisons qui se sont montées, c'est assez incroyable, énormément.
Et alors, on vous souhaite surtout d'arriver en haut des marches. Et que pouvons-nous vous souhaiter
sans glisser.
Sans glisser, exactement. Que pouvons-nous vous souhaiter d'autre pour la suite?
Alors ça, c'est le premier étage de la
suite,
fusée.
Il y a une suite, le premier étage.
Là, pour l'instant, c'est une version, c'est une lecture, là. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est déjà d'être fiers de ce qu'on va produire le 28. Mais pour la suite, c'est de continuer notre progression, de continuer en démarche et d'arriver à faire une... Je souhaite que l'ISRE réussisse à nous faire une magnifique mise en scène dans vos démarches dans les mois à venir.
Oui, ce serait d'arriver à une adaptation théâtrale,
voilà,
en bonne et due forme. Non. Qui peut prendre des formes diverses, je veux dire. Mais, parce que là, en fait, Alice et Diego... liront le texte, donc ils vont se déplacer sur la scène. Le texte n'est pas appris par cœur, ils vont lire leur texte. Donc l'idée, ça serait effectivement d'arriver à une pièce de théâtre.
Tout à fait.
Quelque chose de théâtral, éventuellement un scénario de film. Donc je pense qu'il y a pas mal de
potentialités, en fait. On peut le. C'est pas. Là, c'est un spectacle qui va durer une heure.
Une heure et quart.
Un peu plus d'une heure et quart. Donc dans une adaptation théâtrale, c'est plus long évidemment parce qu'il y a plus des éléments qu'on a mis de côté. Mais c'est ça l'idée, oui, c'est d'arriver, de continuer à développer le projet.
On dirait que c'est un peu facile de dire on aimerait que la pièce existe réellement en tant que pièce de théâtre. On le dit comme ça paraît facile, mais c'est vrai que c'est un chemin très périlleux, long et difficile. Voilà, donc en réalité, ce que vous pouvez nous souhaiter de mieux, c'est que ça existe, parce que c'est un texte qui nous a beaucoup plu à tous et qu'on aimerait vraiment partager avec un maximum de personnes.
Et ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
C'était la chronique mise en scène de Sonia Juquin sur Art District. Excellente journée sur Art District. À notre écoute, à l'écoute de la suite de nos programmes.